Alors je vous propose pour ce matin de réfléchir à cette question, qu'est-ce que le bonheur? Quel bonheur nous est annoncé, promis dans la Bible? Alors je voudrais vous lire d'abord le premier des psaumes. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais qui se plaît dans la parole de l'Éternel et qui murmure sa parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussit. Tel n'est pas le sort de la méchanceté, elle est comme la paille balayée par le vent. Au jugement, la méchanceté ne se lèvera pas, ni le péché au rassemblement de ce qui est juste. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin de la méchanceté se perd. Je voudrais vous lire ensuite le psaume le plus connu de la Bible, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me protège. Tu prépares une table de réconciliation devant mes adversaires. Tu répands l'huile sur ma tête, tellement que ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai, je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Et enfin, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 5, ce qu'on appelle les Béatitudes et qui sont en fait le début, l'ouverture de du sermon sur la montagne, de ce discours que Jésus propose au début de cet évangile. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de vie juste, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de ce qui est juste, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, pour commencer à laisser résonner ces textes en vous-même, le psaume 84, les deux premières strophes de ce psaume, « Dans ta maison, je suis heureux, elle est le désir de mes yeux ».
Thank you.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi vraiment la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre aussi en pratique. Ouvre, Seigneur, par ton esprit, nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Dans le plus célèbre des psaumes, David témoigne que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. David ne nous promet pas ainsi le bonheur, et il ne nous dit pas « faites ceci, soyez ceci et vous aurez alors le bonheur ». Il ne nous dit pas non plus « c'est dans la vie future que vous trouverez le bonheur ». Non, David témoigne simplement de son bonheur, d'un bonheur présent, présent comme quelque chose de tout simple qui l'accompagne dans les bons jours et qui l'accompagne aussi dans les jours terribles. Et David en a connu des jours sombres. Il les évoque à travers cette image que nous avons entendue de vallées d'ombre et de mort, ces jours terribles où son fils meurt par sa faute, jours terribles où il est poursuivi par son roi, par l'armée de son roi dans les quatre coins du royaume, jour terrible de la honte aussi, quand il doit regretter les crimes qu'il a commis. Mais quel est donc ce bonheur dont nous parle David ? C'est ce même bonheur, je crois, dont nous parle Jésus dans les Béatitudes, un bonheur qui est plus fort que tout, un bonheur plus fort que les pleurs, que le dénuement, que les persécutions, que la haine et le mépris que l'on peut subir. Ce bonheur ne dépend donc pas de ce qui nous arrive dans notre vie. Ce bonheur est quelque chose de plus profond que cela. Ce bonheur, c'est une façon d'être qui permet de vivre son bonheur comme une grâce, tous les jours de sa vie, dans les jours d'abondance, quand la vie ressemble à un paradis avec des verts pâturages, des ruisseaux d'eau tranquilles, mais aussi face à la peine, dans ces vallées d'ombre et de mort qui, bien sûr, traversent notre existence de différentes façons, plus ou moins. Alors, bien entendu, il n'est pas question alors de bonheur total à 100%, mais d'un bonheur qui existe quand même réellement, comme quelque chose d'un peu mystérieux peut-être, mais qui est là, dans la profondeur de notre être, parfois tout contre nous, parfois un peu plus enfoui, comme caché, mais qui est quand même là, réellement, chaque jour, nous dit David. Ce que nous proposent d'abord ces textes bibliques, c'est de chercher à faire ce que l'on pourrait appeler, comme David, une confession de bonheur. comme nous faisons aussi, et c'est bien, je crois, des confessions de foi et des confessions du péché. Et finalement, ces trois points de vue, ces trois confessions, sont trois points de vue sur notre vie qui se complètent bien, à mon avis. Confession du bonheur, confession de foi et confession du péché. Et dans cette démarche qui cherche à faire une confession de bonheur, il y a, je crois, une démarche fort utile. Chaque soir, chaque dimanche, ou au rythme que l'on veut finalement, mais régulièrement, il est bon de chercher à faire une amorce de confession de bonheur. Comme le corps et l'intelligence peuvent être musclés avec des exercices réguliers, la capacité à recueillir notre bonheur et à en vivre, à le savourer, cela se travaille. Et je crois que c'est la première chose, à mon avis, pour apprendre à être heureux, c'est de chercher à entrer dans cette démarche. Alors pour nous aider, nous pouvons essayer de faire cela dans la prière. Dieu est capable d'ouvrir nos yeux sur le bonheur et la grâce qui nous accompagnent effectivement, alors que nous ne le savions parfois pas, ou que nous le découvrons seulement après coup. Et souvent, prenant conscience de cette part de bonheur et de grâce qui nous accompagne, nous reconnaissons que ce bonheur, oui, est comme un cadeau. C'est une grâce, un don incroyable. C'est une grâce d'être capable d'être un peu heureux alors que les circonstances ne suffisent pas à l'expliquer. Et c'est ce qui amène David à rendre grâce à Dieu pour son bonheur. Et c'est là aussi, je crois, quelque chose de fondamental, reconnaître que notre bonheur est une grâce. Quand on reconnaît ainsi son bonheur, c'est aussi souvent l'occasion d'avoir de la gratitude envers telle ou telle personne qui nous a apporté quelque chose, un geste, une parole, une présence. Et peut-être alors aurons-nous envie de témoigner de cette gratitude et de la dire, de la vivre même. En tout cas, cette confession du bonheur et cette gratitude, je crois, sont un véritable moteur pour avancer plus librement et plus joyeusement sur la route de notre existence, plus calme et plus serein, plus confiant aussi face à la vie et ses hasards, puisque nous aurons reconnu que oui, le bonheur est comme une grâce. Mais qu'est-ce que le bonheur de l'humain? Quel est ce bonheur pour que nous sachions le reconnaître, le dénicher dans notre existence? Alors la Bible nous propose de réfléchir sur ce que c'est que le bonheur de l'homme à travers des récits, à travers des paraboles, des prières, des réflexions, très diverses en fait. Tous les textes qui parlent de la vie bonne, au sens où Dieu l'entend, ce sont des textes qui nous parlent en fait du bonheur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Par exemple, quand Jésus nous dit « Vous cherchez le royaume de Dieu ?» Eh bien, il n'est pas ici ou ailleurs, mais voilà, en vérité, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ou le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cela veut dire, oui, le bonheur est au-dedans de vous, il est au milieu de vous. Le bonheur est en nous, et il est dans les relations qui sont entre nous. Il est là chaque fois que Dieu a pu créer la vie. Mais une définition de ce qu'est le bonheur se trouve déjà, et je crois que c'est la définition fondamentale, se trouve déjà dans le sens même des mots qui sont utilisés dans la Bible. C'est souvent le cas pour les notions principales en philosophie biblique ou en théologie biblique. Les notions principales sont inscrites dans le cœur même des mots hébreux. En hébreu, deux mots sont utilisés pour dire le bonheur. Le premier mot, c'est « ashrei », qui signifie « être en marche ». Et le second mot qui est utilisé pour dire le bonheur, c'est « tov », qui signifie tout simplement « ce qui est bon ». Et donc, être heureux ou être en marche, c'est le premier mot du livre des psaumes, et c'est sans doute par ce mot que Jésus ouvre son premier grand sermon dans les Béatitudes. Ce mot « ashrei » dit à la fois le fait d'être heureux et d'être en marche, d'avancer. Et cela permet déjà de comprendre comment le bonheur peut être vécu dans l'abondance comme dans la peine, dans les moments faciles comme dans les moments les plus difficiles. Quand tout va bien et que l'on en profite pour avancer, il y a alors un vrai bonheur. Et de la même façon, quand on a des ennuis et qu'on arrive quand même à avancer un peu, quand les larmes sont un peu consolées, quand la paix progresse, quand le deuil devient plus serein, quand la fièvre tombe, le bonheur est là, dans cette dynamique qui consiste à avancer, à progresser, à surmonter, à ressusciter et à faire avancer aussi. Cette conception du bonheur se retrouve dans bien des récits de la Bible et non des moindres. Par exemple, dans la figure d'Abraham, qui est mis en route par l'appel et la bénédiction de Dieu, et qui devient ainsi, par la suite, une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Nous retrouvons cette conception de la vie humaine et du bonheur quand l'Évangile appelle le Christ, le chemin, la vérité et la vie. Oui, la vie véritable, la vie heureuse est ce cheminement qu'est le Christ, cette mise en mouvement par l'amour et pour l'amour. David reconnaît en Dieu la source du mouvement, une force qui l'aide à avancer dans les jours d'abondance, et ce n'est pas le moindre des miracles. Car une fois arrivé dans un vert pâturage quelconque, nous avons plutôt tendance à vouloir nous arrêter là, à camper, à stagner sur cet instant d'abondance. Et pourtant le bonheur, c'est alors encore d'avancer. Et David rend grâce à Dieu aussi de l'aider à avancer dans les vallées d'ombre et de mort. Oui, Dieu est la source de la vie, du mouvement et de l'être, comme dit l'apôtre Paul. Il est source de bonheur et de grâce chaque jour pour chacun. Il y a du bonheur à avancer, comme le dit le mot « ashrei », mais ce n'est pas le seul mot pour désigner le bonheur, il y en a un autre. Et c'est heureux, si je puis dire. Sinon, notre notion de bonheur risquerait de tourner à la course effrénée. Ce second mot pour dire le bonheur, c'est tout simplement « tov », ce qui est bon. Alors, il y a du bonheur dans le fait d'avancer, c'est vrai, mais il existe un autre bonheur, c'est celui du repos. Alors, pas au sens de la sieste, bien que un peu quand même, mais surtout au sens du sabbat biblique, finalement. Ce jour où l'on s'arrête de produire, où l'on s'arrête même de se déplacer pour vivre et être heureux dans le repos. Dieu, nous dit la Genèse, a choisi de se reposer le septième jour après avoir créé pendant 6 jours. Mais dans un sens, à la fin de chacun des 6 jours de création, de ces 6 journées consacrées à faire avancer les choses. Le récit de la Genèse nous dit que Dieu prend un temps pour regarder le monde et pour se réjouir de ce qui est bon. Il y a ainsi le bonheur d'avancer et il y a le bonheur d'être là, de s'arrêter pour voir ce qui existe de bon dans le monde, dans nos frères et sœurs et en nous-mêmes. Il n'y a pas que du bon à voir, évidemment, quand on considère la réalité, mais le bon existe et le propre de l'amour, de cet amour qu'est Dieu, c'est de se réjouir de cette bonne part. Dans le psaume 139, David a cette autre louange que je trouve utile à méditer. « Je te célèbre, Éternel, pour la merveille que je suis. Tes œuvres sont vraiment admirables et mon âme le reconnaît bien. » Oui, il y a un vrai bonheur à avancer et il y a un vrai bonheur aussi dans le seul fait d'exister. De reconnaître qu'une qualité extraordinaire nous est donnée par grâce, indépendamment de tout. Oui, nous sommes un être fragile, imparfait, arrogant, pécheur, tout ce que l'on veut, mais nous sommes un être merveilleux, reconnu par Dieu, aimé par Dieu plus que tout. La personne qui a le plus de chance dans sa vie, comme la personne la plus pauvre, la plus handicapée, la plus démunie, tous pourraient alors vivre ce bonheur-là, fondamental, de se réjouir de cette part de bon qui existe. Mais oui, certes, parfois, même pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour reconnaître ce qui est bon et de découvrir qu'aux yeux de Dieu, chacun de nous est une merveille à sa façon et découvrir aussi toutes ces œuvres admirables qu'il y a à contempler autour de nous. Ce bonheur de la contemplation, c'est aussi, comme dans le psaume premier, un temps où l'on se laisse créer par Dieu, comme un arbre enraciné près d'un cours d'eau qui ne marche pas, bien sûr, mais qui peut grandir et produire des fruits en son temps. Et c'est aussi l'occasion de se laisser purifier par Dieu, comme nous le dit ce psaume, avec l'image du vent qui fait s'envoler la paille pour garder le bon grain. Voilà donc le bonheur, selon la Bible, c'est d'avancer et de se réjouir du bien qui existe. Et si nous existons aujourd'hui, c'est bien que nous avons reçu cette double grâce, celle d'avancer et celle d'être une merveille. Que Dieu bénit. Et cela me rappelle ce que m'a dit une personne de la paroisse que je ne citerai pas pour ne pas la gêner, pourtant je l'ai vue ici ce matin. Chaque matin, m'a-t-elle dit, je remercie d'abord Dieu pour ce nouveau jour de résurrection qui m'est donné, puis je cherche comment faire dans ma journée au moins quelque chose d'utile ou quelque chose d'agréable. On retrouve ici à la base la louange à Dieu. Louange à Dieu pour la vie qui nous est donnée et pour ces deux faces du bonheur qui sont d'avancer, de faire quelque chose d'utile et qui est aussi de se réjouir de ce cadeau qu'est la vie, mais aussi des petites et des grandes bénédictions qui nous sont données dans notre vie. Ce bonheur de faire avancer les choses et de nous réjouir de ce qui est bon, Jésus nous propose de le conjuguer au pluriel. Non seulement en le recevant pour soi-même, mais aussi en le donnant aux autres. Et il y a même, nous dit Jésus, plus de joie à donner qu'à recevoir. Et l'évangile selon Jean culmine sur cette idée-là, je crois. Dans ce discours où Jésus résume l'essentiel pour ses disciples, juste avant d'être arrêté, donc pas un moment particulièrement facile pour lui et pour les disciples, il évoque alors le bonheur et la joie à deux reprises. D'abord, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus les invite à faire de même en se faisant serviteurs les uns des autres. Et il dit, « Vous êtes heureux si vous savez cela et si vous le mettez en pratique. » Et un peu plus loin, Jésus nous propose de vivre de ce bonheur vrai, en prenant conscience de l'amour dont Dieu nous a aimés, en nous laissant construire, créer, mettre en mouvement par cet amour, alors oui, nous pourrons nous aimer les uns les autres, nous pourrons aimer et nous laisser aimer, nous pourrons servir et se laisser rendre service selon les occasions, dans la gratitude et dans l'émerveillement. Oui, il y a une vraie joie, un vrai bonheur à recevoir de Dieu le mouvement et l'être, de recevoir le bonheur et la vie. Il y a une grande joie ensuite, une joie qui complète la première, une joie peut-être encore plus grande, celle de donner et de servir à notre tour. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Amen.